Le Saint-Esprit nous amène vers une profondeur plus grande en lui, vers une vie qui soit une véritable vie guidée par son esprit. Pourquoi Dieu veut délivrer son peuple ? Parce qu'il veut que nous annoncions qui il est, son amour, sa grâce. Et lorsque Dieu délivre un peuple, on s'aperçoit qu'il a toujours un plan de salut derrière. Il y a toujours quelque chose qui est défini. J'ai découvert ces dernières années combien Dieu était stratégique. C'est incroyable comment tout est pensé, précis. Il ne fait rien par hasard. Alors des fois, nous, on bricole, mais Dieu ne bricole pas. Tout est préparé à l'avance, dans les moindres détails. Et la question que nous devons nous poser ce matin, et la question que je vous pose, tiens, on n'est pas très nombreux, ça va pouvoir peut-être permettre un peu d'interaction, mais c'est quoi votre but lorsque vous venez? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Quand je viens ici le dimanche matin, qu'est-ce que je viens rechercher? Ah, peut-être passer un bon petit moment avec les autres. Peut-être que c'est pour vivre l'édification de l'Église, et nous en avons besoin. C'est pour louer le Seigneur, et Dieu veut que nous puissions louer. Mais c'est quoi le but de l'Église, selon vous? Faire un, oui. Ça, c'est une belle image, c'est vrai, j'aime beaucoup. Le corps de Christ. Annoncer l'Évangile. Restez ici à Jérusalem, nous dit Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Allez, Matthieu 18, j'espère, 19, 18 ou 18, 19, je ne sais jamais plus. Allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai déjà enseigné. Le but de l'Église, le but de Dieu pour l'Église, le but numéro un, je ne dis pas que les autres buts ne sont pas bons, mais le but numéro un de Dieu, c'est de quoi? C'est que nous puissions être des pêcheurs d'hommes. C'est la priorité de Dieu, c'est d'aller chercher celles et ceux qui sont perdus. Et il y a dans le cœur de Dieu, et même dans le cœur de Jésus, une réelle volonté d'aller chercher ceux qui sont perdus. La preuve en est, il dit « Je suis le bon berger ». Je crois que je partageais cela lundi après-midi avec les femmes. « Je suis le bon berger ». Et que fait le bon berger? Il a 100 brebis, 99 sont dans l'enclos. Et que fait le bon berger? Il sort de l'enclos pour aller chercher la brebis perdue. Et je posais la question l'autre jour aux dames qui étaient là, qui étaient venues prier à la maison. Et je leur disais, quels sont les critères d'un bon berger? Clairement, nos critères d'un bon pasteur, c'est lorsqu'il prend soin des 99. Nous avons des critères qui ne sont pas forcément des critères du royaume de Dieu. Le bon berger met en priorité ses actions lorsqu'il voit une brebis qui est perdue. Je vous le disais il y a dernièrement que nous avons reçu un mandat de la part de Dieu. De la même manière que Néhémie était passé de l'autre côté du fleuve avec le mandat du roi. Et le roi lui avait donné l'autorisation. Il lui avait dit, tu peux aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Il avait reçu le mandat, l'autorisation, le pouvoir, l'autorité de le faire. Il est allé de l'autre côté du fleuve. Il est allé voir les gouverneurs. Il est allé voir les commerçants. Il dit, j'ai la lettre du roi. Vous devez tout me donner pour que je puisse reconstruire les murailles de Jérusalem. Et je vous disais que nous avons reçu un mandat. Nous pouvons aller de l'autre côté de l'enclos, aller chercher nos frères et nos sœurs qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, parce que nous avons reçu cette mission, ce mandat qui nous dit « Allez, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mes frères, mes sœurs, le but de l'Église, c'est d'aller chercher les perdus. Et peut-être que nous devons revoir la manière dont nous avons, la conception que nous avons de l'Église. Et on va commencer par quelque chose de sympa. Un petit film que je lui ai prêté à Jean-Luc et Nathalie. Je sais pas. Ah, ça marche comme ça aussi. Vous allez voir, tu es prêt, Nat? Je vais fermer. Attends, hein. Avant de le mettre en route, attends. Hein. J'ai un petit truc à dire. Ne vous endormez pas. Hein. Séance cinéma. C'est un petit film qui raconte l'histoire d'un naufrage, du naufrage d'un bateau. Ce bateau s'appelle le Rosemary, je crois. Et des personnes vont tomber à l'eau au milieu d'une tempête. Et ils sont perdus au milieu. Ils vont se noyer si quelqu'un n'arrive pas dans les minutes qui suivent pour les sauver. Et ces personnes représentent les perdus, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Et non loin de là se trouve un bateau qui s'appelle le Corpus Christi. Tiens, c'est bizarre. Il représente l'Église, comme vous vous en doutez. Et le commandant des gardes-côtes, parce qu'il y a quelqu'un là, il y a un commandant avec une... Il est tout blanc. C'est Dieu qui représente Dieu. Il dit, il envoie un message au bateau Corpus Christi, il dit, allez les chercher. Jetez tous vos canots à la mer, il faut les sauver. Et maintenant, on va observer leur comportement. Et vous allez voir, ils ressemblent au nôtre. Je vous le dis d'emblée. Hein. Et ce que je vous demande, c'est de bien regarder leur attitude. Et après, on fera peut-être un petit débrief ensemble. Et on se posera la question, qu'est-ce qui nous empêche, en tout cas, quels sont les obstacles à notre témoignage aujourd'hui? On fait ça? Comme le raconte le film, le but de l'Église, ce n'est pas passer des moments ensemble. D'écouter de la musique ensemble. Le but de l'Église, c'est de sauver les âmes. Nous connaissons tous l'ordre de Jésus qui dit « Allez, faites des nations des disciples, baptisez-les ». Et qu'est-ce qu'on a fait de cette mission qui nous avait été confiée? Qu'avons-nous fait? Nous avons construit, mes frères et mes sœurs, un système. Une église qui n'est pas l'église. Une église qui ressemble à l'église. Une église qui est un bateau de plaisance. Mais qui ne répond plus aux besoins des perdus, des gens qui sont naufragés, des personnes qui sont loin de Dieu. Alors il y a des obstacles à notre témoignage. On s'aperçoit en fait que c'est insidieux, mais ça peut rentrer dans notre vie comme... d'une manière tellement perfide, tellement secrète. Et à votre avis, c'est quoi les obstacles de ces personnes qui restent dans leur confort? C'est quoi? Allez, la première des choses, c'est quoi? La crainte. Ils ont peur de perdre leur confort. Vous voyez, à un moment donné, c'est des hommes qui disent « Contentez-vous d'être heureux, nous on est à l'intérieur plutôt que d'être à l'extérieur ». La deuxième des choses, c'est que leur priorité, c'est le culte. Leur priorité, c'est de leur système religieux. Est-ce que vous voyez d'autres obstacles ? Ils discutent beaucoup, plutôt que d'obéir aux ordres. Il y en a qui pensent savoir. Ils ont lu tout le bouquin des grands théoriciens. Ils n'ont jamais mis en pratique. Beaucoup ne savent pas témoigner. En tout cas, ils ne savent pas le faire avec efficacité. Aussi, le bricolage, peut-être que dans le tas, il y a des gars qui ont déjà essayé de sortir, puis ils ont dit, bon, ça marche comment ce bazar ? Et ils ont perdu le canot, peut-être. Vous voyez ? Il y a des gens qui aimeraient, mais qui n'y arrivent pas. Et puis, il y a quelque chose quand même qui est assez évident. C'est quoi, à votre avis ? Voilà. Un des obstacles principaux qui nous empêche de témoigner autour de nous, c'est notre manque d'amour. Nous n'aimons plus les gens perdus. Nous ne les aimons pas. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Parce que si on les aimait, on irait. C'est l'amour qui nous pousse. Qu'est-ce qui a poussé Jésus ? Il est écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est l'amour de Dieu qui pousse à envoyer son Fils et à aller chercher, à aller sur la croix pour aller chercher les perdus. L'amour des perdus a disparu des cœurs. Et il a été remplacé par l'égoïsme, par le repli sur soi. Et cette volonté, vous avez entendu dire, cet homme est en train de dégouliner sur mon parquet. C'est terrible comme parole. C'est terrible ce qui est en train d'être dit. Mais mes frères, mes sœurs, je voudrais que vous entendiez ceci. Je suis déçu qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce matin pour entendre ça. Mais notre amour a disparu. Et au nom d'une sainteté, d'une autoprotection, on se dit, oh, je me maintiens loin des pécheurs. Et puis, il y a quelque chose qui me paraît évident. C'est l'inconscience des croyants qui ont oublié que leurs contemporains sont perdus. Ils ne se disent même pas que les gens sont là, sont perdus. Ils sont tombés à l'eau, mais ils ne sont pas perdus. Il y a une inconscience, il y a un voile devant nos yeux, il y a un voile d'incompréhension qui nous a envahis et qui nous a amenés, mes frères et mes sœurs, à être inconscients. Inconscient. Il y a aussi un obstacle supplémentaire. C'est que tout cela, ça a attristé le Saint-Esprit. Tout cela attriste le Saint-Esprit. Et vous savez ce que fait le Saint-Esprit quand il est attristé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se retire. Il s'éloigne. Et nous sommes dans un système où nous demandons l'action puissante du Saint-Esprit dans nos cultes, dans nos vies de famille, dans ce que nous vivons, dans ce que nous entreprenons. Nous demandons l'action du Saint-Esprit alors qu'il y a une incohérence entre ce que nous demandons et ce que nous faisons par rapport à ce que Dieu nous demande. Et après, on vit une forme de schizophrénie chrétienne. On se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas ? Mais forcément, je pense à moi. Mais forcément, c'est mon confort. Mais forcément, c'est mon parquet qui est mouillé, abîmé. Mais forcément, c'est je suis, comme là, je ne sais pas ce qu'il est, le gars en blanc là, qui reprend le quartier maître. Un pasteur ou un responsable, peut-être. je pense à moi, je suis devenu égoïste. Alors que, en réalité, lorsque Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le but de l'Esprit, c'est pas pour toi. Le but de l'Esprit Saint de t'accorder les dons, c'est pas pour que tu te glorifies de tes dons. Le but du Saint-Esprit, c'est que tu deviennes un témoin. C'est que tu parles de Dieu. C'est que tu apportes le salut. Je sens une lourdeur. Et puis, il y a quelque chose qui vous a frappé, là, non? Le bateau, il a combien de canaux de sauvetage? 24. Combien sont mis à l'eau? Qu'est-ce que je vous disais il y a deux ou trois semaines quand je prêchais sur 1 Samuel chapitre 30? Vous ne vous souvenez pas? C'est que je n'ai pas été bon. Donc, je me répète. Je vous disais, Samuel, on lui a tout volé à Tsilak. Qu'est-ce que lui dit l'Éternel? Poursuis. J'ai dit quoi, Samuel? Ouais, David, merci. Ben voilà. Vous comprenez pourquoi vous ne vous souvenez pas. Merci de me le rappeler. Il dit, rattrape, poursuis et reprend. Et il s'en va avec 600. Et 200 ont un peu la trouille. Puis 200 sont très fatigués. Il en reste que 200. Dieu permet quand même. Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit. Ma démission, et je déclare les choses avec précision, c'est une démission. Ma démission, même s'ils ont eu le retour, parce que je vous ai dit que tout le butin qui avait été récupéré par David est revenu à l'ensemble des 600 hommes. D'accord ? Néanmoins, la démission des uns peut provoquer le découragement des autres. Et souvenez-vous, je vous avais dit dans cette même prédication que imaginez que David se retrouve seul face aux personnes à qui il a besoin de récupérer. Aurait-il récupéré son butin ? Non. C'est que l'ensemble doit y aller. Tous doivent y aller. C'est-à-dire que tous doivent comprendre que le but de l'Église, c'est d'aller chercher les perdus. Ah, vous allez me dire, il me met la pression, là. Moi, je ne suis pas fait pour aller dans la rue. Je ne vous ai pas dit ça. On va y arriver. Enfin, je refais ma manière de... Notre mission. Alors, pardon. On a souvent suivi ce modèle-là. Je l'ai partagé à plusieurs reprises cette semaine et j'en parle. Je tanne mon épouse. Maryse va vous parler un petit peu tout à l'heure, vous allez voir. Ça va changer un petit peu. Elle est beaucoup plus belle que moi. Le modèle qu'on a souvent suivi était celui-ci. Je disais que tout à l'heure, parfois on a bricolé. On a essayé, on a fait des choses, et puis on s'est rendu compte que notre bricolage n'amenait pas à la réussite. Avez-vous déjà remarqué ça? Je vais vous expliquer. Comment faisons-nous en général? J'essaye d'amener un priorité, il faut que je l'amène à tout prix à l'église. Parce que le pasteur, il prêche pas trop mal, par exemple, ou la personne va sans doute être touchée, en espérant que le cœur de la personne soit vraiment touché. Et si le résultat, vous savez ce qui arrive? J'ai discuté avec un frère vendredi soir. Quand il est venu chrétien, on n'a pas cherché à comprendre. On a dit, on va te mettre là tout de suite. On ne s'est même pas assuré de certaines choses avant. Et après, on fabrique. Je dis bien, on fabrique des chrétiens à qui on les fait adhérer à une association cultuelle ou un groupe. Mais on a occulté le message de la croix. Et souvent, j'ai remarqué, souvent, Et j'en ai fait le triste constat par rapport à ce que j'ai fait. Quand je vous dis ça, je ne jette pas la pierre sur vous. J'ai pratiqué comme ça. J'ai dit, allez, viens, j'ai un bon pasteur. Viens, je connais une belle église. Tu verras, on passe des repas en commun, on joue à la belote, on se marre, on boit un petit coup, on passe des soirées de Nouvel An, etc. Tu verras, c'est super. Mais les perdus n'ont pas besoin de ça. Les perdus ont besoin de la croix. Les perdus ont besoin d'entendre le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Et souvent même, quand on est un peu meilleur, que faisons-nous? On organise des débats théologiques avec nos amis. Vous avez déjà remarqué ça? Vous les invitez, vous lui offrez un bon whisky ou autre chose. Hein? Et puis vous commencez à discuter. Et la personne vous dit, mais Dieu a-t-il créé le monde? Et Satan existe-t-il? Et ceci, et cela, et cela. Et nous sommes les meilleurs du monde. Vous avez remarqué dans ces cas-là, mais je vais t'expliquer. Nous sortons la Bible. Nous commençons à faire la Bible de A à Z, la Genèse. Une année, c'était en 1992. Une nuit entière au travail. Ce jour-là, j'étais payé par le Seigneur, je peux vous le dire. J'ai amené une discussion où j'ai tout expliqué au gars. Un gars qui est devenu un ami par la suite, mais qui n'est toujours pas chrétien. Vous savez pourquoi? Je lui ai expliqué la Bible de A à Z et j'ai survolé le sacrifice de la croix. Et je ne l'ai même pas amené dans la réalité de sa vie. J'ai perdu mon temps pendant 12 heures. J'étais payé, c'est vrai. J'ai perdu mon temps. J'ai manqué d'efficacité. Et le manque d'efficacité, le manque de but dans notre témoignage nous amène à bricoler, à fabriquer des personnes qui vont adhérer à un groupe, mais qui ne seront pas réellement nés de nouveau. Vous verrez, je vais peut-être vous bousculer dans les semaines qui viennent, mais je suis en train d'étudier dans la Bible les signes de la nouvelle naissance. Et il y a de quoi se remettre en question. Je disais cette semaine, je ne sais plus qui, mais je disais, quand quelqu'un naît de nouveau, il y a quelque chose qui s'enclenche dans sa vie. Si ça n'est pas enclenché, c'est que tu dois te poser la question, suis-je né de nouveau? Ah, ça va peut-être vous perturber, mais c'est ma responsabilité devant Dieu de le faire. D'amener toutes les personnes que Dieu confie à cette assemblée au salut. Et s'il y en a qui ne l'ont pas fait, il faudra qu'on traite le sujet. Je vais vous donner un exemple. Sans citer le nom de la personne. Une personne qu'on a baptisée ici, il y a quelques semaines. Elle envoie un mail disant qu'elle quitte l'église. Je dis ok. Mais avant, j'aurais aimé qu'on en discute. Et j'ai repris par A plus B. J'ai bien écouté. J'ai écouté pendant une heure tout ce qu'elle avait sur son cœur, qui était légitime. Et au bout d'une heure, j'ai dit, c'est quoi les signes de la nouvelle naissance? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu vis? Elle me dit, rien. Elle-même a dit, elle-même cette personne a dit, je suis pas né de nouveau. Elle-même a dit cela. Vous savez ce qu'on a fait? On est revenu au début. Il dit, maintenant tu vas commencer. Tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés. Tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur. Tu fais cette prière de repentance. Elle l'a faite. Vous savez là, ce qu'elle a envoyé à une autre personne avec qui je m'occupe d'elle. Elle a dit, depuis que j'ai fait ça chez Bruno et Maryse, ma vie a changé. Ce qui change la vie, c'est pas l'adhésion à une église. Ce qui change la vie, c'est pas l'adhésion à Betsalel. C'est pas de suivre un pasteur. Ce qui change la vie, c'est lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur. Lorsque tu prends conscience que tu es pécheur. Et que tu as besoin du pardon de Dieu. Et que tu as besoin de la croix. Que tu as besoin du sang de Jésus qui te lave et qui te purifie. Alors, il est écrit que tu peux naître de nouveau. Qu'a fait Nicodème? Nicodème vient avec Jésus. Et comment? Et comment? Et comment? Et comment? C'est un grand théologien, Nicodème. Il connaît la Bible par cœur. Il sait tout. Il dit, mais comment un homme peut-il renaître de nouveau, peut-il rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère? Comment? On passe notre temps à répondre au comment, alors que Jésus lui répond, il faut naître de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça qui donne la vie. Ne cherche pas à répondre à ce qu'on répond à tes comment. Tu as plein de comment dans ta vie. Mais bien sûr, comment, pourquoi, parce que. Mais ce que tu as besoin, c'est de naître de nouveau. Ce que les gens ont besoin, c'est de la croix, c'est de la vie en Jésus-Christ. Allez, je m'emballe, j'arrête. Le modèle qu'on suivait aussi, c'est qu'on disait, je prends la personne quand ça marche. Parce que je ne dis pas, dans le tas, il y a quand même des gens qui naissaient vraiment de nouveau. Hein, parce qu'ils finissaient par comprendre certaines choses. On disait, bah tiens pasteur, tu t'en occupes. C'est au pasteur à le faire. Or, je suis désolé de vous le dire, mais lorsque je lis la Bible, et lorsque je regarde le modèle biblique, lorsque je regarde le modèle de l'Église primitive, ce n'était pas les pasteurs, c'était fête des nations des disciples. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est que quand tu amènes une personne au Seigneur, c'est à toi de t'en occuper. C'est à toi. Et je peux vous dire que ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Vous imaginez 10 personnes qui arrivent en même temps? Mais je travaille plus, hein. Il faut que j'arrête le boulot, hein. Mais c'est pas juste. Parce que on n'apprend pas les chrétiens à prendre soin des autres. On n'apprend pas les chrétiens à connaître les fondements bibliques pour amener une personne à l'état de disciple. Toi, autant que personne, tu es appelé à former des disciples. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas les anciens. C'est toi. Nous sommes une nation de sacrificateurs. Sortez de l'idée du schéma catholique ou du schéma de l'Ancien Testament. Vous êtes des sacrificateurs, vous, dans votre propre famille, auprès de vos propres amis. Je continue. Le modèle que nous choisissons à Betzalel, enfin je dis nous choisissons, je l'ai choisi, mais vous êtes obligés maintenant. Être le plus près possible du modèle de Jésus et de l'Église primitive. À savoir, notre témoignage ne doit pas porter sur une Église, une organisation, mais sur Jésus. C'est Jésus qui doit être au centre. S'il vous plaît, parlez de Jésus, parlez de la croix. Nous n'amenons pas une personne dans l'Église, mais à Jésus. Et le diable aime les églises remplies de personnes à qui on a amené à l'église, dans l'église. Il aime ça. Par contre, je peux vous dire qu'il y a un réel combat lorsque nous commençons à entrer dans cette dimension de dire « Je veux amener cette personne à toi, Seigneur. » La personne doit comprendre que Dieu l'aime et qu'elle a un plan merveilleux pour sa vie, si elle le suit. Vous savez, l'évangile n'est pas un évangile à l'eau de rose. Il faut clairement déterminer et faire comprendre aux personnes, même vos connaissances. À un moment donné, tu ne peux pas lui dire, oui, mais tu sais, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, je vais prier pour toi. Non, Dieu a un plan sur ta vie et tu seras béni si tu le suis. Qu'est-ce qui amène la bénédiction? Il nous est dit dans le livre de Deutéronome, si tu obéis, alors j'appellerai la bénédiction sur ta vie. Mais la Bible, c'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas gris. C'est blanc ou c'est noir. C'est Dieu ou c'est la mort. C'est la vie ou c'est la mort. C'est Dieu ou c'est Satan. Mais c'est ça, hein, l'évangile. Il n'y a pas 36 facettes. La personne doit être amenée à comprendre que le péché est un problème dans sa vie qui va l'amener à la mort éternelle. On n'ose plus aborder le problème du péché. Vous avez déjà remarqué ça?
Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est aussi.
Oui, mais tu vas voir, on va y venir. Les gens vont connaître ce que c'est que le péché. Ils doivent reconnaître à un moment donné, avoir la révélation qu'ils sont éloignés de Dieu. Ça, c'est dans notre témoignage. Après, tu vas voir, je vais répondre. Ça répond à ta question, c'est très bien, c'est juste. Et que seule la foi en ce que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés peut l'amener au pardon et à la réconciliation avec Dieu. Ok, vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord pour le contenu de notre témoignage? Maintenant, la prière. Il faut toujours amener une personne à prier. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire la personne, par exemple, vous lui avez fait ça. Et puis, vous lui avez présenté le plan du salut. Et puis, la personne est touchée. Et tu dis, ben, c'est bien. Dimanche prochain, je viens te chercher à l'église. Pour aller à l'église. Pardon. C'est la fatigue. Et ça, ça marche pas. Qu'est-ce qui amène les choses et qui les scelle sur le plan spirituel? Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, tu seras sauvé. Il doit y avoir une déclaration. Je peux vous dire que j'ai vécu cela d'une manière concrète. Lorsque je vois une personne déclarer de sa bouche, si elle est sincère dans son cœur, ça change sa vie. C'est ce que j'ai fait, moi, il y a bien longtemps. Et j'ai vu vraiment l'action de Dieu ensuite. Ma vie n'était plus pareille. J'ai vu à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu toucher mon esprit. Et il m'a donné vie. J'ai fait l'expérience réelle de ce qu'est la nouvelle naissance. Ma vision sur Dieu n'était plus la même. Ma vision par rapport au péché n'était plus la même. Ma vision sur la vie n'était plus la même. Mes buts ont changé, ont radicalement changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. La personne doit demander pardon pour ses péchés. Elle doit demander la purification de ses péchés. Elle doit demander la délivrance de ses péchés. Elle doit proclamer que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés. Et elle doit demander, Jésus, viens dans mon cœur, s'il te plaît. Voilà comment vous devez amener une personne au Seigneur. Je vous donnerai des petits trucs à l'occasion, on verra, on fera ça dans les groupes de maison. Si vous n'avez pas fait cette prière, je ne vais pas vous demander de lever la main. Je n'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise. Mais si vous n'avez jamais fait cette prière, posez-vous la question, s'il vous plaît, suis-je né de nouveau? Posez-vous la question. Je suis désolé, ça vous bouscule peut-être, ça vous torture. Mais le Seigneur m'a demandé de vous le dire. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais fait ça et qui ont besoin de le faire. Et vous avez vu les derniers dimanches, j'ai souvent fait un appel à ça, parce que je reste convaincu que ce qui va changer la vie d'une personne, c'est lorsqu'elle fera ce pas de prière du salut. Alors, rassurez-vous, je ne me transforme pas en évangéliste. Ben, rassurez-vous, non. Après tout, si Dieu me demande... Et puis, il y a quelque chose quand même que j'ai remarqué, ça. Comment vous dire? J'ai eu 3 garçons, dont le dernier qui est là, ce matin. Je les ai vus naître. Et c'est vraiment ce que j'ai reçu en début de semaine de prière. C'est ce que j'ai reçu. Et c'est ce que j'ai senti dans mon cœur, c'est ce que j'ai partagé avec quelques personnes. Vous savez, quand un enfant naît, permettez-moi, mais c'est quand même quelque chose de brutal, un accouchement, puis c'est pas très propre, enfin pas très propre, c'est propre, mais enfin, vous comprenez, c'est plutôt, on va pas rentrer dans les détails. Mais en général, quand la sage-femme aide à l'accouchement, que fait-elle? Il y a toute une série de choses qu'on fait. Exemple, on prend pas l'enfant, on le met pas sur la mère, avec le cordon ombilical qui est encore là, et puis il dit, tiens, maintenant, débrouille-toi, va dans ta chambre. Vous comprenez ce que je veux dire? On prend soin de la personne qui vient de naître. Et il y a tout un processus dans lequel on doit amener une personne lorsqu'elle naît de nouveau. Exemple, on va commencer à couper le cordon ombilical. Et ça, ça a toute une signification qui est pour moi très importante. La délivrer de son passé. Tu n'es plus dans le néant, tu es dans la vie. Que fait-on en général ? La première des choses qui arrive, c'est que le bébé, normalement, il doit respirer. Moi, je sais que mon premier, ils ont dû le secouer pendant 2-3 minutes parce qu'il ne respirait plus. On a eu un même un peu peur, il était tout bleu. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir ? De l'air qui rentre dans les poumons, le Saint-Esprit. Ouais, il y a plein de petites choses comme ça. Après, qu'est-ce qu'on apprend ? On regarde et on vérifie s'il n'y a pas de... On les fait le test de la marche. Je trouve ça d'ailleurs très beau, très extraordinaire qu'un bébé sache déjà marcher comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui se font. On prend soin. Je ne sais pas, on lave l'enfant. On le purifie. On enlève le sang qui est sur ses yeux. Enfin, vous voyez, il y a toute une série de choses. Et clairement, ce qu'on a souvent fait, on s'est dit... On amène une personne à l'église, on l'amène là, la personne vit ce qu'elle peut vivre, et puis on ne s'en est pas occupé. Et puis que se passe-t-il ? Le cordon n'est toujours pas coupé. Et cette personne est encore influencée par son passé. Ou alors, on s'aperçoit que le bébé, il ne respire pas, ou il respire très mal, les poumons ne sont pas rentrés, la personne n'a pas reçu toute la puissance du Saint-Esprit. Et vous voyez qu'il y a plein de choses comme ça. Et après, on se rend compte que ces enfants ne grandissent pas. Moi, j'ai rencontré, j'ai toujours été un peu surpris et effaré de voir des personnes qui avaient 30 ans de rencontre avec le Seigneur, ils sont toujours les mêmes, avec les mêmes travers, avec les mêmes addictions. Avec les mêmes, vous les revoyez. L'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai quitté il y a 10 ans, c'était le même. J'avais l'impression de ne pas avoir vieilli, au moins c'est un avantage. J'ai dit, le gars, il est le même qu'il y a 10 ans. Mais c'est pas normal, vous comprenez ce que je veux dire. Automatiquement, quand on rencontre le Seigneur, on doit grandir. La Bible nous le dit, le but de Dieu lorsqu'il envoie les ministères, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Et au bout de 10 ans, normalement, tu dois t'en être approché. Et je me dis, mais là, il doit y avoir quelque chose. Et je crois qu'il y a une clé ici. C'est que nous devons amener les personnes au Seigneur, mais nous devons les suivre. Et quand je dis nous, c'est vous, en réalité. Regardez. La première des choses que je propose... C'est que, oui, on représente, lors de la première rencontre, 45 minutes. Tout ce que je vous fais, Marise va vous expliquer après, vous allez voir. Pendant 45 minutes, vous lui parlez de Jésus. Vous lui dites, qui est Jésus ? Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre, etc., etc. Il y a des passages bibliques. Tous les documents sont prêts. Je les ai envoyés au responsable de groupe de maison, je crois. Vous les avez reçus. Ensuite, il faut lui reparler du péché. Il y a une personne qu'on a vue dernièrement, qu'on voit avec mon épouse et Aldora, qui, lorsque j'ai abordé le problème du péché, elle a dit, oui, je me rends compte que le péché m'empêche de certaines choses. Et on a même pu aborder le problème du pardon. Du coup, elle a pardonné, elle a demandé pardon pour ses péchés, mais elle a pardonné pour tous les péchés qu'on avait faits sur elle. Et je peux vous dire, son cœur s'ouvre. Les choses sont en train de changer. La troisième chose que je propose, c'est qu'on puisse parler de la Bible. Mais souvent, on dit aux personnes, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, et puis vous dites, tiens, voilà une Bible, tu la liras. En gros, débrouille-toi. Vous avez déjà remarqué ça ? Mais la personne, une fois, une personne est venue à la maison, elle dit, moi, quand je lis la Bible, je comprends rien. Mais forcément, t'es pas né de nouveau. Donc je suis allé directement au but. Je dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais comment que quand je lis la Bible, que je ne comprends pas ? Oui, réponse de Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. Et là, après, une fois que la personne elle est née de nouveau, vous pouvez commencer à lui dire, tiens, lis ça, ça va t'aider. Moi, il y a une personne qu'on est en train de suivre actuellement, elle est revenue. La première fois qu'elle est venue, la même personne a dit « je ne comprends pas la Bible », elle est venue me voir, elle m'a dit « j'ai lu ça, c'est pour moi ». Waouh ! Ça, c'est bon, ça me motive, vous voyez ? Ensuite, comment être délivré des problèmes du passé ? Se Point numéro 5, je l'ai testé pour vous, pas plus tard que cette semaine. Et ça marche. Et ensuite, parce que les gens, vous savez, ont besoin d'être délivrés de leur passé. Peut-être vous aussi encore, non ? Moi aussi, peut-être. On a tous besoin d'être délivrés de notre passé. Et enfin, après, je propose qu'on puisse parler du Saint-Esprit. Et enfin, que la personne puisse connaître la personne du Saint-Esprit, ce que fait le Saint-Esprit, comment il la dirige, comment, etc., etc., etc. Et puis enfin, dernier point, septième rencontre, on commence à lui dire, tu sais, ça vaut le coup d'avoir une vie de famille dans l'Église. Et là, au bout de la septième fois, on peut commencer déjà à parler de l'Église. Parce que la personne est prête à retourner dans la chambre de la maman, à être nourri au lait, etc. Parce que tout le suivi qu'on doit faire au départ a été fait. Mais ça, ce n'est pas les pasteurs qui doivent le faire. Ça, ce n'est pas les anciens. Quand tu as un bébé, tu ne files pas ton gosse à quelqu'un d'autre. C'est toi qui t'en occupes tout de suite. C'est comme si la sage-femme était en train d'accoucher, elle disait, bah, maintenant, moi, il est sorti, vous débrouillez, quoi. Non, il y a toute une équipe qui est là, qui s'en occupe. Elle se sent responsable de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant retourne dans la chambre de la maman pour y être nourri, soit biberon, soit la tétine de la maman. Faut pas dire autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, ça va être envoyé au groupe de maison. Et tout ça, on va en discuter. Et on va en parler. Je vais vous taquiner. Vous embêtez. Et vous savez ce que j'ai commencé à faire? Dans mes suivis, j'ai pris mon épouse. Aldora, quand elle viendra avec l'autre personne, si c'est possible, j'ai pris encore une autre personne pour suivre une autre personne. Actuellement, je suis avec 3 personnes que j'espère former. Ces 3 personnes reprendront 2 personnes. C'est-à-dire que la première fois où vous avez ramené une personne au Seigneur, vous ne savez pas, mais forcément, il faut qu'on s'aide les uns les autres. Eh bien, vous ferez appel à quelqu'un qui a déjà été formé et vous ferez ce suivi. Vous comprenez? Et moi, au fur et à mesure, je vais démultiplier. Le but, à terme, c'est que toute l'Église l'ait fait au moins une fois. Et le jour où vous devrez suivre une personne, vous saurez le faire. Ça vous va?